Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Chrétien d'Impact, ou ICC, Impact Christian Center. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifié, encouragé, transformé et propulsé comme une flèche vers votre destinée en Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 33 1 46 70 52 31 ou à l'adresse email suivante contact@icc-paris.org. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. May God bless you.
Reçois mon amour, reçois ma gratitude ce matin. Jésus, aucun autre nom n'est plus doux et n'est plus beau. Aucun autre nom ne donne la paix. Aucun autre nom ne donne la vie. Aucun autre nom ne donne la paix, la joie, le bonheur. Ah, oh, les hommes m'ont rejeté. Il m'a aimé. Il m'a poussé dans le vide. Ses bras éternels m'ont recueilli. Je ne suis pas dans la confusion. Peut-être que mon père n'est plus là, mais je ne suis pas orphelin. J'ai un père dans les cieux. Que mes parents ne soient plus là, il est là. Je suis reconnaissant ce matin. Mon âme exalte ton nom, mon esprit au-dedans de moi te cherche. Digne de louange, digne d'adoration, je ne peux m'empêcher de proclamer ton nom. Sauveur, Seigneur, Rédempteur, ma justice et mon bouclier. Capacité, tu es mon excellence, tu es ma gloire, tu es ma foi, tu es ma joie. Tu es tout. Tu es Jésus, tu es Jésus. Le plus beau de tous les noms, je suis appelé par ce nom. I thank you, I bless you. Si Jacques Chirac était entré dans cet endroit, à quelqu'un qui se serait levé à la venue d'un homme. Il aurait acclamé, parce que quelqu'un aurait dit acclamer le chef de l'État. Et pendant que le roi de gloire fait son entrée, on voit quelqu'un qui est assis en train de marcher sans chewing-gum. Quel manque de respect. Il a dit, si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis l'Éternel, où est le respect que l'on a de moi? Oh, si mon voisin ne veut pas se lever pour prêter allégeance à l'agneau de Dieu, je bénirai l'Éternel. Et je démontrerai ma foi dans l'assemblée des fidèles. God is worthy. Tu es digne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Je ne peux pas rester indifférent devant son amour. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Sois toujours reconnaissant. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. S'il fallait te voter, personne ne t'aurait voté. Ils auraient trouvé forcément une tâche dans ta vie. Ils auraient trouvé quelque chose à redire. Ils auraient dit non, pas lui, pas elle. Tu as vu ce qu'elle a fait? Non. Je bénis l'Éternel de ce qu'il n'a pas consulté un homme. Il a regardé, il a dit, je l'aime. Pourquoi tu m'aimes? Je l'aime. Et c'est ce qui a bouleversé ma vie. Quand je me suis donné au Seigneur, malgré toutes les conneries que j'avais pu faire dans mon passé, j'ai entendu une voix qui m'a dit, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai dit, tu ne peux pas m'aimer. Ce n'est pas possible. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne peux pas m'aimer. Ce n'est pas possible. J'ai fait faire des avortements, j'ai fait faire des conneries, j'ai fait faire des gens aux femmes des conneries, j'ai fait des bêtises, j'ai fait trop de conneries. Tu ne peux pas m'aimer. Et puis la voix m'a dit, je t'aime quand même. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Elle m'a dit, je t'aime. J'ai dit, alors là, tu me confonds. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Mais ça, c'est le mystère de l'amour de Dieu. C'est le mystère de la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de son amour. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu peux juste le constater puis le recevoir par la foi. Et dire, je ne le mérite pas. Je te remercie de ce que tu m'as aimé. Et si personne ne t'aime, dis-toi simplement, il m'a aimé. Ou que quelqu'un dise, il m'a aimé. Amen. Alléluia. qui a décidé de devenir un tueur de géants? Qui lève les deux mains? Avec une, tu prends le bouclier, l'autre, tu prends l'épée. Terrasser ces géants. Voyez-vous, les géants ne sont pas. Les géants ne sont pas. Ne sont pas la promesse. Les géants sont l'obstacle qui t'empêche d'entrer en possession de tes promesses. Et le Seigneur me met à cœur aujourd'hui, un peu toujours dans la continuité, dans la suite, ce n'est pas le même message, mais le Seigneur me met à cœur de nous préparer à recevoir ce qu'il est sur le point de déverser. Il y a quelque chose que je vois dans l'invisible qui sera bientôt traduit dans le visible. Mais le Seigneur me met à cœur de nous positionner, que quelqu'un dit se positionner. Tu dois te positionner pour recevoir. Parce que lorsque le fruit tombe de l'arbre, il ne tombe pas n'importe où. Si tu es au mauvais endroit, tu vas louper. Tu dois te positionner. Tu dois ouvrir la fréquence Saint-Esprit FM et te positionner au bon endroit. Que quelqu'un dise Amen. Et voyez-vous, nous devons comprendre que le jour où nous prenons l'engagement, la décision de devenir des tueurs de géants, nous avons vu les sept batailles qu'il fallait remporter pour devenir un tueur de géants. Mais nous devons aussi comprendre que le jour où tu prends la décision, mon frère, ma soeur, de devenir un tueur de géants, ça veut dire que tu as décidé de traverser le Jourdain. Parce que lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez à la maison, ça va vous faire un bon exercice à la maison pour cette semaine. Lisez tout le livre d'Exode, tous les chapitres, et lisez tous les chapitres de Nombre. Vous allez comprendre l'histoire d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Parce que l'Ancien Testament est rempli de typologie, ou encore de figures, ou encore de représentations. Que quelqu'un dise représentation. Allez, la Bible nous explique qu'en réalité, beaucoup de choses qui sont décrites dans l'Ancien Testament ne sont qu'une représentation, une ombre, une figure des choses à venir. Ainsi, lorsque vous voyez que le peuple d'Israël est parti en captivité pendant 400 ans dans le désert, en fait, l'Égypte, ils ont été en captifs en Égypte pendant 400 ans. Cette captivité, cette servitude, esclavage en Égypte n'était qu'une représentation de toi et moi, esclaves du diable et du péché. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'était une représentation du salut, de la sortie de ce monde, pas de la sortie de la terre, mais de la sortie de ce monde, de la délivrance de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et après, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, c'était simplement un symbole, une figure, une représentation du baptême d'eau. Et lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, c'est-à-dire qu'ils ont été sauvés, ils ont été baptisés d'eau, ils se sont retrouvés dans le désert. Le désert n'était pas la destination finale. Le désert était un passage obligé, hein, t'inquiète pas, tu t'en souviendras si tu l'as oublié, je te garantis. Le désert n'était pas un passage obligé, le désert était simplement un processus par lequel ils devaient passer. L'ombre qui est traduite, qui est révélée dans le Nouveau Testament, ça, c'était simplement la sanctification. Le but du désert n'était pas de tuer le peuple, de l'étrangler. C'était pas de le faire souffrir. Le but de Dieu, c'était simplement de le faire passer par la sanctification. Que quelqu'un dise sanctification. Sanctification, c'est le processus par lequel, je vous explique ça très simplement, Dieu travaille en toi par le Saint-Esprit pour emmener ta condition au même niveau que ta position. Ta position, elle est avec Christ dans les lieux célestes. Ta position telle que Dieu te voit en Christ, c'est la position de quelqu'un qui est saint, qui est pur, qui ne dit pas de mensonges, qui marche dans la justice, dans la droiture, dans la vérité. Maintenant, Dieu va travailler sur terre par la puissance de son esprit afin que ma condition d'aujourd'hui ne demeure pas celle qu'elle est, mais qu'elle soit alignée au même niveau que ma position en Christ. C'est-à-dire qu'il est saint, il faut que cette sainteté qui est déjà en Christ, qui est déjà réelle aux yeux de Dieu, il faut qu'elle soit manifestée dans ma vie, aux yeux des hommes également. Amen. Mais voyez-vous, comme je dis, le désert n'était pas le but. Le but, c'était de traverser le désert, arriver devant un autre fleuve, qu'on appelait le Jourdain. Que quelqu'un dise le Jourdain. Et le but, c'était pas de contempler le Jourdain. Le but, c'était de traverser le Jourdain pour aller de l'autre côté, arriver enfin à la terre promise qu'on appelait Canaan. Canaan, ce n'était pas la figure du ciel. Canaan, ce n'est pas une image du ciel. Canaan, c'est simplement une image de l'endroit où tu dois aller. C'est-à-dire là où tu hérites les promesses. Là où les choses qui bloquaient ta vie, là où les forteresses qui s'opposaient à ta destinée, les malédictions héréditaires qui sont passées par la lignée sanguine et qui t'ont poursuivi jusqu'à ta vie. Canaan, c'était la dimension où ces choses sont stoppées, où l'histoire de ta vie est réécrite, où les jougs, les malédictions, tous les fléaux qui ont dévasté ta famille, les générations précédentes, cessent, commencent désormais à partir de toi une génération de faveur et de bénédiction. Canaan, c'est une dimension dans laquelle tu rentres en possession des promesses. Que quelqu'un dise amen. Mais vous devez comprendre une chose, lorsque le peuple traversait le Jourdain pour arriver à Canaan, la première chose que le peuple voyait, la première chose qu'il voyait, c'était des villes fortifiées. C'était des forteresses. Leur première forteresse, c'était Jéricho. Je dis ça juste pour quelqu'un qui croit que lorsqu'il a décidé de devenir un tueur de géants, parce que tu as des critères à l'église, je suis un tueur de géants. Il y a quelqu'un qui pense que maintenant, j'ai dit, je suis un tueur de géants. Dès que je vais arriver, je vais voir maintenant la puissance de Dieu se manifester. Laisse-moi te dire une chose. Quand ils sont arrivés à Canaan, bizarrement, c'est là que les géants ont commencé à apparaître. Souvenez-vous que c'est à cause des géants qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de traverser le Jourdain et ils ont commencé à murmurer contre Dieu au point que Dieu s'est mis en colère. Dieu leur a dit, ah bon, vous ne voulez pas aller là où je vais vous emmener. Comprenez bien qu'ils étaient déjà sauvés. Ils étaient dans le désert, mais ils tournaient en rond dans le désert. Ils ne voulaient pas traverser à cause des géants. Mais lorsqu'ils ont traversé, première chose qu'ils ont trouvée, c'était les géants. C'était des forteresses, des villes fortifiées, des villes qui semblaient imprenables. Mais je tiens à te dire, mon frère et ma soeur, comprenez bien en parenthèse que Josué n'a pas conquis Canaan tout de suite. La première ville, c'était Jéricho. C'est tombé tout de suite. Mais les historiens disent qu'il a mis environ 6 à 7 ans pour conquérir tout le pays, pour commencer à le partager en héritage parmi le peuple d'Israël. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et ce qui m'étonne, c'est que la Bible dit que lorsqu'ils ont traversé, on va le lire tout à l'heure, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour aller de l'autre côté, la Bible dit que les nations de l'autre côté étaient terrorisées. Ils étaient consternés, ils étaient abattus. Ils disent, mon Dieu, un Dieu qui est capable de diviser la mer rouge en deux. Ensuite, il prend le Jourdain et le divise en deux. C'en est fini de nous. Bizarrement, des fois, parce que la Bible dit que les démons tremblent. Dis à ton voisin, les démons tremblent. Non, dis-lui, les démons tremblent. Alors dis-lui, mais pourquoi tu trembles toi voilà. Pourquoi est-ce que tu trembles toi hein? Les démons doivent trembler, c'est pas toi qui dois trembler. Mais bizarrement, ils tremblent, ils ont peur. Mais ce qui m'étonne, c'est que malgré le fait qu'ils ont peur et qu'ils tremblent, ils ont opposé quand même la plus farouche résistance au point qu'il a fallu les déloger un à un jusqu'au bout. Des fois, tu penses que parce que Satan a peur, parce qu'il tremble, parce qu'il sait qu'il est vaincu, tu penses qu'il va t'ouvrir le tapis rouge en disant « D'accord, je reconnais que tu as gagné. » Non, même quand il sait que tu as gagné, même quand il a peur de toi, il va te combattre jusqu'au bout. Tu dois combattre qu'il est expert en combat. Il est là depuis 6000 ans, terroriste des terroristes. C'est lui qui a formé tous les terroristes actuels. Amen. Les forteresses que tu vas trouver à Jéricho représentent tout ce qui veut freiner l'action de la puissance de Dieu dans ta vie. Tout ce qui veut te résister alors que tu es en marche vers la restitution et la restauration totale. Tout ce qui veut empêcher Dieu de se glorifier dans ta vie, ça, ce sont des forteresses que tu rencontres à Canaan. Toutes les géants, des maladies, d'intimidation, de découragement, de fausses accusations. Tu as l'impression que l'enfer est là. Tu as l'impression que ta tête est mise à prix et que sur ton dos, c'est écrit « Wanted ». Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, qui sait pas ce que ça veut dire? Avoue-le. Bon, voilà. Bon. Wanted. Ça veut dire mise ta tête mise à prix, recherchée. Et là, ce n'est pas 10 millions de dollars. Là, c'est somme illimitée. Ça, c'est quand tu traverses Canaan. Quand tu traverses le Jourdain, pardon. Quand tu es dans le désert, Satan ne vient pas te chercher là-bas. Tu n'es pas dangereux. C'est le jour où tu mets les pieds sur la terre promise. Que là, brusquement, tu vois certaines montagnes se dresser. Alors, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un ici pour qui ce message vient trop tôt. Parce que tu es encore dans le désert. Tu es encore en train de tourner en rond. Et donc, ce que je dis pour toi, c'est des mystères. Tu ne comprends pas. Mais je te dis une chose. Prends le CD. Prends le CD qui sera donné. Et demain, tu auras besoin de le mettre pour te souvenir de ce que je vais te dire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Parce que vois-tu... On n'attaque pas, tu ne verras pas quelqu'un de sage et de sensé dans sa tête là, quelqu'un qui est bien dans sa tête, tu ne verras pas attaquer un clochard dans la rue. Quand tu vois que l'enfer a l'air d'être déchaîné après toi, tu dois comprendre forcément que tu as quelque chose d'extrêmement précieux. Ce qui est triste, c'est de voir que le diable te voit, le diable croit plus en toi que toi-même. On n'attaque pas quelqu'un qui est déjà vaincu, on attaque quelqu'un parce qu'on sait qu'il est dangereux. Il y a quelqu'un qui a accepté le Seigneur et tu essaies de marcher maintenant avec le Seigneur et brusquement c'est là que tu vas ressurgir certains coups de fil des gens qui t'ont lâché hier et qui te disent je pense toujours à toi. Baby, je pense à toi. Ça fait longtemps que tu m'as oublié, tu m'as lâché comme par hasard. Le moment où je dis je vais maintenant marcher avec le Seigneur, c'est là que, au moment où tu veux prier, c'est là que viennent bizarrement certains coups de fil. Tu dis, je vais à l'église. Non, je suis venu te dire que, oh, mais, mon gars, on dit quoi? Et toi, tu es là. Ah, enfin, quelqu'un même, il s'intéresse à moi. C'est un ennemi. Il vient comme un poison mortel dans ta vie. Tu ferais mieux de faire attention. Dis à toi, fais attention. Oh, comment? Je vais vous dire la vérité. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, dans le désert, il n'y a pas de géant. Dans le désert, il n'y a pas de géant. Les géants se trouvent à Canaan. Ça veut dire que quand tu arrives à Canaan et que tu vois le désert, quand tu arrives à Canaan et que tu vois des forteresses, que tu vois des grands géants qui se trouvent devant toi, ça veut pas dire que tu t'es trompé d'endroit. Ça veut dire que tu es au bon endroit et que c'est là que tu devais arriver. C'est le panneau de signalisation qui dit vous êtes arrivé à Canaan. Premier signe, c'est géant. Quand tu vois le géant, ne te dis pas « Ah, Seigneur, c'est pas là que je voulais arriver. Moi, je voulais arriver dans un endroit paisible. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors, je cherche les verts pâturages et je cherche les eaux paisibles. » Ce que tu as oublié dans le psaume 23, c'est qu'après, il dit aussi « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. » C'est le même berger qui est à l'œuvre. Il m'a conduit dans les eaux paisibles, dans les verts pâturages. Et quand il a fini les verts pâturages, maintenant, c'est l'homme de la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne peux pas juste vouloir les verts pâturages et les eaux paisibles et fuir la vallée de l'ombre de la mort. Parce que les deux sont indispensables. Parce que ce que fait la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a rien d'autre qui le fait. La vallée de l'homme de la mort te transforme le caractère. La vallée de l'homme de la mort te rend mature. Aujourd'hui, il y a des choses qui t'irritent. Quelqu'un te dit, assieds-toi là. Ah! Quelqu'un t'injurie. Quoi, tu n'es pas encore passé dans la vallée de l'homme de la mort. Et je vous ai dit la semaine dernière, la vallée de l'homme de la mort, c'est lorsqu'on te met en terre. Les gens croient que tu as été enterré. Ils se disent, tu n'es fini de lui. Il a disparu. Ils ne savent pas que tu n'as pas été enterré. Ils oublient que tu as été simplement planté pour une saison. Dis à quelqu'un, je reviendrai. Terminator, I'll be back, boom. Je reviendrai. Mais tu penses que ma vie est finie? Parce que tu te vois dans la vallée de l'homme de la mort, il dit c'est fini, il est mort. Non, le but de la vallée de l'homme de la mort, c'est pas de mourir. C'est pas de mourir physiquement, c'est de faire mourir le vieil homme. Parce que quand tu passes par la vallée de l'homme de la mort, je t'assure, il y a des choses qui te... Un tel a dit ça de toi, hier tu disais, quoi, il a dit ça de moi? Il va voir, je vais l'appeler. On te dit, un tel a dit ça de toi aujourd'hui, tu dis qu'il dise encore. Quelqu'un te marche dessus, tu dis c'est pas grave, laisse-le parler. Tu sais pourquoi? La vallée de l'homme de la mort fait développer la maturité. Oh, que quelqu'un dise la vallée de l'homme de la mort, c'est le même berger. C'est pas qu'il ne m'aime pas, c'est qu'il sait que je dois passer au travers. Oh, que quelqu'un dise amen. Dans le désert, il n'y a pas de géant. Dans le désert, il n'y a pas de forteresse. Il n'y a que la chaleur et la solitude. Dans le désert, il n'y a pas de position frontale. Le diable ne te combat pas face à face dans le désert. Le diable te combat. En fait, je veux vous dire, il n'y a pas de position frontale. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand tu es dans le désert, là où il a fait beaucoup de prodiges, là, parce que tu es encore immature. Dans le désert, tu es encore bébé. Et Dieu ne permettra pas certaines choses. Dieu ne permettra pas à Satan de venir te faire ouah. Parce que Dieu sait que tu vas être terrassé. Ah! Alors, quand tu es dans le désert, dans le désert, Satan ne t'attaque pas en face à face. Il t'attaque quand même. Mais il t'attaque comment? Par les pensées. Dans le désert, c'est là que tu as toutes sortes de tentations charnelles. Mais quand tu traverses le Jourdain, dans le désert, le peuple était encore livré à l'immoralité. Quand tu es encore dans le désert, en fait, tu peux encore regarder l'Égypte. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'Égypte est juste de l'autre côté de la mer Rouge. Donc, il y en a, ils sont aujourd'hui dans le désert, et puis ils regardent encore. Parce que vous savez, quand ils étaient dans le désert, il y avait la nostalgie. Dès qu'ils arrivaient à un obstacle, oh, au moins en Égypte, on mangeait. Au moins, quand j'étais avant de connaître le Seigneur, au moins avant, les hommes m'appelaient. Maintenant que on m'a dit, si tu te convertis à Jésus, tu vas trouver au moins un vrai homme qui sera pieux, il va aimer l'Éternel. Ça fait 10 ans que j'attends. Oh, finalement, j'aurais dû rester dans le monde. Quand tu as ce genre de mentalité-là, tu vas tourner encore dans le désert. Tu vas tourner. Quand tu pars, ah, je regrette mon ancienne vie, comme s'il y avait quelque chose de bon dans ton ancienne vie. Pourquoi tu n'y es pas resté? Il n'y a rien de bon. C'était l'enfer. J'avais au moins un bon boulot, maintenant j'ai perdu mon boulot. Écoute-moi bien, j'ai perdu peut-être le boulot, mais je le retrouverai, et puis surtout j'ai gagné Christ. Oh, que quelqu'un dise amen. Il n'y a rien de bon là-bas. Dis à toi, il n'y a rien de bon dans le désert. Il n'y a rien de bon en Égypte. Dans le désert, il n'y a pas de géant, il n'y a pas de forteresse. Par contre, il y a des expériences bizarres. Des fois, Dieu te conduit et puis il t'amène dans un endroit qu'on appelle Mara, les eaux amères. Les expériences amères. Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi tu m'aimes? Dans le désert, le peuple est surtout confronté aux 10 tentations. Nombre chapitre 14 au verset 22, dit, l'Éternel dit, vous m'avez déjà tenté 10 fois. Il y a 10 tentations, les murmures. Dès que tu n'as pas à manger, dès que ton compte bancaire, avant, en Égypte, ton compte bancaire était toujours plein. Dans le désert, Dieu te fait passer par le processus. Dès que tu encontres, commence à arriver à zéro, tu commences à paniquer et tu commences à dire, Seigneur, tu vois, je donne ma dîme. C'est parce que je donne ma dîme et mes offrandes. Avant, dans le monde, je ne donnais pas ma dîme et mes offrandes. Mais tu remarques que tu n'étais pas mieux que ça. Dans le désert, avant au moins, je donnais. Maintenant, je donne ma dîme. Oh, j'ai des problèmes maintenant. C'est facile de reconnaître quelqu'un qui est encore dans le désert. Il est encore livré avec les tentations. Toujours il murmure. Toujours en train de se plaindre. Ah, il y en a marre. Ça fait 5 ans que j'attends. Ça fait. Quand tu parles comme ça, tu es qualifié pour tourner encore en rond dans le désert. Et à chaque fois, tu regardes de l'autre côté. Mais ça, ce n'est pas les géants qui ont traversé. Donc, ça, ce n'est pas les tueurs de géants. Parce que les tueurs de géants, ils ont traversé le Jourdain. Ils sont allés de l'autre côté. Dans le désert, le peuple encore livré à la débauche, la fornication, toujours des relations sexuelles hors mariage. Ouais, mais on n'est pas marié, mais c'est pas grave, le Seigneur comprend. C'est ça. Attends, rendez-vous en enfer, je ne t'accompagnerai pas. Tu iras avec le diable en personne et puis vous allez vous asseoir tous ensemble là-bas. Moi, je ne serai pas là. Alléluia. Quelqu'un qui n'aime pas ça. Aïe. Dans le désert, ils avaient le temps d'être dépressifs. Ils avaient le temps d'être dépressifs, démantelés, disloqués, découragés, en train de se plaindre sans cesse. Ils étaient dans le désert, ils étaient constamment dans des mauvaises fréquentations. Parce que la Bible dit qu'il y avait un ramassis du peuple, il y avait un ramassis de gens qui étaient sortis d'Égypte, qui n'étaient pas israélites. Les mauvaises fréquentations. Quand tu es dans le désert, tes fréquentations, il n'est pas converti, vous n'avez rien en commun, tu dis c'est mon ami. On parle de quoi? Oh, on tue le temps ensemble. Le temps va vous tuer, mon ami. Et c'est un pote. Et quand il arrive, je suis avec son pantalon là. Ou la soeur qui arrive aujourd'hui. Parce que maintenant, vous savez, ils ont la mode. Là, maintenant, c'est la mode, vous savez, on met des pantalons. Alors, le haut du pantalon commence. Le haut, la chemise, le boubou, enfin, le haut s'arrête juste au niveau de l'omoplate ici. Tout le reste est dehors. Et le pantalon commence juste un peu après les fesses. Et elle marche dans la rue. Ça va? Elle est cool, c'est ma copine. Si tu m'emmènes des gens comme ça à l'église. Je suis rempli d'amour. Mais vous savez, il ne faut pas m'en vouloir. Vous savez que quand je prie, j'ai une prière que je fais tous les jours au Seigneur et que je crois que Dieu me rend bien. Parce que Dieu te donne ce que tu lui demandes. Et moi, vous savez, c'est comme ma prière. Seigneur, fais-moi haïr le péché comme tu le hais. Fais que lorsque je vois le péché, Seigneur. Donc, des fois, je peux avoir des réactions assez extrêmes. C'est ce qu'on appelle le zèle de la maison du Père qui me dévore. Jésus a pris le fouet puis il a chassé les vendeurs. Je ne ferai pas ça à ICC. Sinon, toute l'église va fuir. Et ce que j'essaie de dire, c'est que dans le désert, tu n'es pas assez dangereux pour que le diable vienne t'attaquer. Alors, comment il t'attaque? Il t'attaque juste à travers les mauvaises pensées. Il tient tes pensées et tant que tu es dans le désert, tu vivras une vie de défaite. Tant que tu es dans le désert, tu te contentes du juste assez, la manne. Tu n'as pas de quoi planifier le lendemain. Et si aujourd'hui tu meurs, tu ne laisses à tes enfants rien de bon. C'est une tragédie. Parce que la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Tant que tu es dans le désert, tu tournes en rond. Tant que tu es dans le désert, tu ne rends pas service à ta descendance. Et le jour où tu partiras, les enfants vont dire, voilà, nous sommes restés dans le désert. Parce que là où tu t'arrêtes, c'est là qu'ils continueront. Si tu t'arrêtes dans le désert, ils commenceront à partir du désert. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dans le désert, tu ne tues aucun géant. Tu restes bébé spirituel et tu joues au yo-yo avec l'adultère, la fornication, le mensonge, le vol, la masturbation, le rejet. Tu es toujours au yo-yo. Oh, j'ai dit, ça va mieux. Demain, comment ça va? Oh, pasteur. Reste encore. Tourne. Mais lorsque tu traverses le Jourdain, que tu quittes le désert, que tu traverses le Jourdain, que tu arrives à Canaan, que quelqu'un dise Canaan. Même si à Canaan, il y a des forteresses, parce qu'il y a quelqu'un qui, en entendant parler comme ça, il dit, oui, mais à Canaan, il y a des forteresses, il y a des géants. Mon ami, c'est bon, ça veut dire que c'est là que je dois être, que quelqu'un dise Amen. Parce que je suis là à Canaan pour prendre mon héritage, je suis là pour briser des malédictions héréditaires, je suis là pour changer le cours de l'histoire, de mon histoire et de ma descendance. Dis à ton voisin, je dois le faire. À Canaan, c'est là que ça commence. Je suis au lieu où je dois être. Que quelqu'un dise Amen. Ne fuis pas Canaan, c'est bon, c'est là que tu dois être. Tu dois récupérer tes enfants, tu dois récupérer ce qui appartient à ta destinée. Mais voyez-vous, alors quand vous arrivez, quand vous voulez passer du désert à Canaan pour entrer dans la possession des promesses, Une fois que nous avons compris que les géants ne se trouvaient pas dans le désert, mais qu'ils se trouvaient à Canaan. Quand nous avons compris ça, je vais vous parler aujourd'hui alors du processus qui permet de passer depuis le désert jusqu'à l'accomplissement, la manifestation des promesses. Je vais vous parler des 4 C. Que quelqu'un dise les 4 C. Les 4 C par lesquels Josué a dû également passer. Alors ouvrons nos Bibles à Josué chapitre 4. Josué se trouve dans l'Ancien Testament. Alors que tu t'interroges et que tu baisses la tête pour chercher Josué, demande à ton voisin de t'aider. S'il ne veut pas, tu donnes 2 euros. Josué chapitre 4, versets 15 à 19. Là, nous sommes dans le contexte où le peuple d'Israël a traversé le Jourdain. Alors allons-y. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Allez avec moi à toujours Josué, allons au chapitre 5, au verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Au verset 8, nous lisons, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, que quelqu'un dise aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Que quelqu'un dise amen pour sa parole. Le premier, c'est pour aller conquérir son héritage par lequel le peuple d'Israël a dû passer. Le premier, c'était le C de la consécration. Que quelqu'un dise consécration. Voyez-vous, la Bible dit que dès qu'ils ont traversé le Jourdain, en fait, même pour traverser le Jourdain, il a fallu que Dieu opère un miracle. La Bible dit que le Jourdain s'est divisé en deux, ce qui était miraculeux. Et dès qu'ils ont fini de traverser, dès que tout le peuple est passé de l'autre côté, la mer s'est refermée. Autrement dit, plus de possibilité de retourner en arrière. Les gens qui traversent le Jourdain, sont des gens qui ont prêté allégeance à l'agneau de Dieu et ils ont dit, je ne retournerai plus en arrière. Ciao, ciao, bye bye. Comme le dit la chanson de Donnie McLaughlin, c'est quoi la chanson encore? Qu'est-ce qu'elle dit? Goodbye world. I stay no longer with you. Bon, ma voix n'est pas solennelle, je reconnais. Donc, tu as du mal à trouver les accords. Mais lorsque tu décides de traverser le Jourdain, ça veut dire que tu as décidé que ta vie doit changer. Traverser le Jourdain, c'est un signe d'engagement. Que quelqu'un dise engagement. Traverser le Jourdain est quelque chose de très important. Ça veut dire que je renonce au murmure, je renonce à la nostalgie. Je ne suis plus encore au stade de l'immoralité, de l'adultère, de la nostalgie. Je regrette encore mon passé. Non. Lorsque je traverse le Jourdain, les gens qui traversent le Jourdain sont des gens qui ont dit, Seigneur, je sais que maintenant, qu'importe l'apparence, ma vie est mieux qu'elle ne l'était hier. Les gens qui traversent le Jourdain n'ont aucun regret par rapport à hier. Hier est mort et enterré pour toujours et je te dis merci parce que je sais que j'ai fait le bon choix. Parce que lorsque je traverse le Jourdain, je vais à la conquête de mon héritage. Je vais récupérer ce qui m'appartient de droit. Le fait de traverser le Jourdain prouve que tu es un tueur de géants. En tout cas que tu as décidé de devenir un tueur de géants parce que tu te souviens que les géants ne sont pas dans le désert. Le fait de traverser le Jourdain prouve que tu as mûri spirituellement et que tu n'es plus un bébé qui passe son temps à pleurnicher à la moindre épreuve qui t'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? On m'a injurié. Et t'appelles ça une épreuve. 1 Pierre chapitre 4 verset 12 dit: mais mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Ne soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Il parle de la fournaise de l'épreuve. Et il y a des gens qui pensent que la fournaise de l'épreuve, c'est quand quelqu'un m'a insulté, on m'a refusé un boulot. Ah frère, je suis dans la fournaise. Non, il ne faut pas confondre épreuve et fournaise de l'épreuve. Dis épreuve et fournaise de l'épreuve. Si tu penses qu'à l'époque où il écrit ce texte, à l'époque où Pierre écrit ce texte, il faut comprendre que les chrétiens d'alors, de l'ère primitive, étaient confrontés à de sérieux problèmes, de sérieux challenges. Ce n'était pas juste, non, on m'a injurié, juste on m'a fraqué la porte au nez, je suis allé en magasin, on m'a chassé, on m'a dit espèce de noir, espèce de blanc, espèce de jaune, espèce de sarcelle et de montre la jolie. Écoute-moi, c'est pas ça, ça c'est pas la fournaise de l'épreuve. La fournaise de l'épreuve, ce n'était pas, ça fait 5 ans que j'attends pour mon mariage, je suis dans la fournaise. Tu n'es pas dans la fournaise, ça c'est pas la fournaise, toute chose est relative. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de dire amen, mais je dis amen moi-même, alléluia. Parce que si tu penses que c'est ça la fournaise de l'épreuve, alors tu es en train d'insulter la mémoire de ces gens qui ont été massacrés à cause de leur foi. Attention, il faut relativiser beaucoup de choses. Les gens ils viennent te voir, ça ne va pas, ça fait 5 ans que j'attends. Et alors, Abraham a attendu combien d'années? Ah, je ne vais pas être comme Abraham, il n'y a pas de problème. Que sa volonté soit faite. La fournaise, il perd son boulot. Et je suis dans la fournaise de l'épreuve. Non, non, c'est une épreuve, ce n'est pas la fournaise. Parce que la fournaise, mon gars, ça chauffe, ça brûle. Dis à ton voisin, relativise tout. Vous savez, moi j'ai appris à relativiser beaucoup de choses. La question que je me pose systématiquement dans mon esprit, d'accord, tu peux être dans une épreuve sévère, il n'y a pas de problème. Mais la question que je me pose souvent maintenant, c'est est-ce que ça aurait pu être pire? Et à chaque fois que je me pose la question, la réponse est toujours oui. Est-ce que là où je suis là, est-ce que ça aurait pu être pire? Alors si tu es là, debout, par la grâce de Dieu, bénis l'Éternel. D'accord, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être que tu es malade, mais bénis l'Éternel. Mon papa est décédé, ma maman est décédée. Pourquoi? J'ai dit, écoute-moi, si tu ne le célèbres pas, tu vas le condamner. Si tu ne bénis pas Dieu, tu vas le maudire. Et juste au cas où tu serais tenté de poser trop de questions à Dieu, en disant, pourquoi? 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 Je ne dirai pas aujourd'hui pourquoi pas. Parce que je parle de décès. Mais je dirais juste, va lire Job. Quand tu lis Job chapitre 38 là, hein, pour quelqu'un qui ne lit pas souvent la Bible, je vais te lire un peu Job. Je t'assure que le jour où j'ai lu Job, ça m'a appris à fermer ma bouche et à dire seulement mon âme bénit l'Éternel. Parce que Job se plaignait. Pourquoi? Je souffre. Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis? Je suis juste. D'accord, Dieu sait que tu es juste. Mais Dieu ne te doit rien. Il n'est le débiteur de personne. Que quelqu'un dise amen. Alors la Bible dit au verset 38, chapitre 38, pardon, verset 1, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Bon, ok, saint terrain, ça veut dire attache la ceinture. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Attache ta ceinture comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, dit l'Éternel, et toi, maintenant tu vas m'instruire. Bon, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel? Et quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses louanges. Et quand je lui imposais ma loi et que je mis des barrières et des portes. Quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Dieu pose tellement de questions à notre ami Job qu'à force de juste poser des questions, il n'a pas donné les réponses, il a juste posé les questions. Job a commencé à gratter la tête et à dire, bon, tu sais, en fait, on m'avait parlé de Dieu, on m'avait prêché l'évangile à l'église, mais je ne te connaissais pas. Maintenant, je ferme la bouche et je fais profil bas. Dieu dit, non, c'est pas fini. Je continuerai de te poser des questions. Tu vas répondre encore et tu vas continuer toute la liste. Job a dit, je me repens. Dis à ton voisin, apprends à relativiser. Tu n'es pas dans la fournaise de l'épreuve. Apprends à relativiser. En traversant le Jourdain, je l'ai dit, tu, tu n'en es plus pleurniché pour la moindre épreuve. Parce qu'en traversant le Jourdain, tu deviens plus mature. Que quelqu'un dise amen. En traversant le Jourdain, tu dis goodbye world, je ne reviendrai plus en arrière. Et même si je perds tout. Parce que vous devez comprendre une chose, le Jourdain n'est pas le symbole de la nouvelle naissance. Je répète, traverser le Jourdain, ça ne veut pas dire accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est quand tu sors d'Égypte et tu manifestes ton témoignage par le baptême. Mais traverser le Jourdain, ce n'est pas accepter Jésus. Parce que beaucoup ont accepté Jésus, mais sont encore dans le désert. Traverser le Jourdain, c'est accepter Jésus et décider de quitter le désert pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Traverser le Jourdain, ça ne veut pas dire recevoir le Seigneur. Ça veut dire entrer, décider de sortir des excuses, de sortir des préjugés, de sortir des murmures, de sortir de l'immaturité et accepter maintenant de vraiment entrer dans le plan parfait de Dieu pour ma vie. Que quelqu'un dise amen. Traverser le Jourdain, ça veut dire cesser d'être bébé, cesser de pleurnicher. Lorsque je traverse le Jourdain, tu dois comprendre que ce n'est pas juste. Je vais vous donner un exemple. Lorsque tu traverses le Jourdain, tu ne dis plus juste je vais me marier avec quelqu'un qui est chrétien. Ça, tu peux faire ça dans le désert, parce que dans le désert, ils se mariaient entre eux. Lorsque tu traverses le Jourdain, ça veut dire que tu décides que ce que je vais faire là, la personne que je vais épouser, c'est la personne que Dieu a approuvée. Celle que Dieu a goûtée, testée. Quelqu'un m'a dit, mais comment tu vas épouser une femme que tu n'as jamais goûtée? Il dit, Dieu a goûté, il a testé, et Dieu a dit, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'aller toucher. Baisse la tête, il n'y a pas de problème. C'est à toi, à ton voisin. Notre génération aujourd'hui a besoin de toucher. Est-ce qu'on a le droit de s'embrasser sur la bouche? Est-ce qu'elle t'appartient, voleur? Pas toi, ton voisin, pardon, excuse-moi. Tu vois, je vous dis, il faut prier pour moi, Elle ne t'appartient pas, tu n'as pas payé la dot, tu ne l'as pas mangée et tu vas la toucher. Laisse-la tranquille. Et toi, ma soeur, arrête de te brader pas cher. Oui, mais il m'aime, il ne t'aime pas. S'il t'aime, il peut attendre. Parce que de toute façon, quand tu vas te marier là, il va devoir attendre. Des fois, et si tu voyages une semaine, comment il fait? Hein? Parce que quand je n'étais pas converti, non, baisse la tête, je viens vers toi. Parce que quand je n'étais pas converti, figure-toi que dès que j'étais en province, dès que j'allais, je me montais sur Paris, il me fallait encore une autre copine. Parce que c'est. Mais oui. Et tu penses que. Non, mais le frère, il vient à l'église, pasteur, il a une bonne moralité, c'est ça. Après demain, pasteur, c'est l'enfer. Je t'avais prévenu, ma soeur. Là, moi, alors, ma femme, pasteur Jacques, il est très bien pour ça, lui, là, le temps d'écouter. Moi, je dis, je t'avais averti. Bon, va voir Dieu. C'est pas que je n'ai pas compassion, c'est que le temps, là, il n'y a que 24 heures dans la journée. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui veulent qu'on les aide, on va les aider. Mais il y a des gens à qui tu parles, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. D'accord, pasteur, parle toujours. Oui, mais en ce moment, seulement sur la bouche, c'est pas très grave. Dis-moi, si tu peux manger quelqu'un sur la bouche, sans convoiter, sans avoir un tableau d'ensemble plus glorieux. Mais rien, on ne fait rien que ça. Hein. Et puis après, la main passe dans le dos. Oui, regarde-moi bien, baisse la tête, il n'y a pas de problème. Traverser le Jourdain, c'est dire, Seigneur, je ne veux pas juste une volonté permissive de Dieu. Je veux ton plan parfait. Je veux être là où tu veux que je sois. Et peut-être qu'en traversant le Jourdain au niveau... Tu vois, lorsque tu traverses le Jourdain, tu veux faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu ne choisis même plus un travail juste parce que c'est le diplôme que j'ai étudié. J'ai fait un DSS de droit. C'est quoi ta passion dans la vie? Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi tu fais droit? Pourquoi tu travailles là où tu travailles? Pourquoi tu as le boulot que tu as? Parce que c'est le seul boulot que j'ai trouvé. Non, traverser le Jourdain, ça peut t'obliger à quitter ce boulot, à prendre un risque, juste pour entrer dans le plan de Dieu. Juste pour faire le fardeau, réaliser le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que, tu vois, je vais te dire la vérité. En étant mon pasteur, mon salaire a été divisé par au moins deux. Mais je suis heureux parce que j'ai fait le bon choix. Et je jubile quand je vois des vies transformées. Je jubile quand j'entends des gens dire « Ah, j'ai été transformé par le ministère de cet homme. » Je dis ça, mon ami, il n'y a aucun salaire qui équivale à ça. Rassure-toi, ça c'est pour aujourd'hui. T'inquiète pas, ça va changer. Je te garantis que. Non, ne t'inquiète même pas pour moi. Il ne faut même pas te dire, me plaindre. Parce que je te garantis, je ne suis pas dans une dimension de miettes et de petitesse. Je crois au transfert de richesse, mais je crois qu'il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire, regarde-moi là où tu es aujourd'hui. Ne dis pas, le pasteur est pauvre. Je ne peux pas être pauvre. Je sais, il y a trop de choses à l'intérieur de mon esprit là pour être pauvre. Ce n'est pas possible. La pauvreté, c'est un péché. Parce que la pauvreté, c'est l'incapacité à produire. Dieu a mis sur la terre tout ce dont l'homme a besoin. Avant que mes enfants ne viennent dans le monde, on avait tout préparé. Layettes, lingettes, couches, tout ça là. Je ne sais pas s'il y a des synonymes qui se répètent dans mes phrases, mais qu'importe, je vous assure, on a tout préparé. Le lit, tout était là. Quand l'enfant est venu au monde, tout ce qu'il avait à faire, c'était d'ouvrir la bouche. Immédiatement, un biberon rentrait dans sa bouche. Le lait avait été acheté. On n'a pas attendu que l'enfant commence à faire ouin pour dire, au fait, est-ce qu'il y a du lait dans la maison? Non, tout était préparé. Et il dit, si vous méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux saura-t-il donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il a tout préparé. C'est pour ça que tu n'as pas le droit d'être pauvre. La seule question, c'est comment? Mais je vais vous enseigner, je vais vous dire, moi je vais vous dire, je ne peux pas être pauvre. Si je reste à ICC. Parce qu'il faut avoir la connaissance. Non, je ne fais pas la pub, je fais la pub de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais Jésus, il est ici aussi. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Des fois, il y a des choix que tu vas faire. Juste pour entrer dans le plan de Dieu, ça peut te coûter cher. Mais je te garantis une chose. Si je fais ce choix, je sais que je ne peux pas être dans la confusion. Il a dit, celui qui abandonnera père, mère, frère, soeur, terre, il récoltera sur la terre, pas au ciel, sur la terre, le centuple. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alors non seulement j'ai la vie pour l'éternité, mais je te garantis que le centuple sera manifesté. Ce n'est pas avec le petit boulot que j'avais hier là, un petit boulot boulet, pardon, enfin, comme tu veux. Ce n'est pas avec ça. Non, j'ai compris que c'est beaucoup plus grand que ça. Oh, Jésus de Nazareth. Moi, je vais vous dire, Dieu m'a fait une grâce, j'ai appris une chose. Hein. Mets-moi dans n'importe quel environnement. Non, il y a des gens que j'ai... Non, j'ai observé certains peuples. J'ai observé par exemple... Non, soyons francs, j'ai observé des Libanais. Ils arrivent et ils créent un business. Quand vous n'êtes pas content, vous allez vous casser leur business. C'est ce qui se passe dans certains pays d'Afrique. Parce que le droit est relatif. Les lois peuvent être obéies ou pas, ça dépend des pays. Mais ce qui m'impressionne, c'est chez ces gens-là. Tu vas aujourd'hui, les gens sont en colère, ils cassent. Le gars, il ne se désespère pas. Quelques mois, dès que le pays s'est calmé, la stabilité. Les autochtones quittent leur pays. Ils laissent leur terre. Les Libanais, ils arrivent, ils achètent les terrains. Ils construisent dessus. Et le jour où tu vas partir dans ton propre pays d'origine, tu deviens locataire. Quelle médiocrité. Et ce qui m'étonne avec ces gens-là, c'est que quand ils arrivent, ils refont les affaires. Tu as tout cassé, ils recommencent à zéro. Quelques mois plus tard, ils prospèrent encore. Non, j'ai compris, il y a des gens, tu vois, non? Il y a une différence entre avoir une mentalité de millionnaire et puis avoir des millions dans la main. Ces gens-là, ils ont une mentalité de créateur de richesse. Dès le jeune âge, l'enfant à 3 ans, il est déjà avec papa dans le commerce. Il ne fait rien, il est juste là, dans la boutique. Et toi, tu le regardes, tu dis, moi, je vais étudier à l'université, sciences éco, droit... Bon, il y a diplôme aussi. Hein. Je vais passer bac plus 5, bac plus 6, doctorat, bac plus 8, bac plus 10, bac plus 15, médecin, bac plus 20. Et pour t'offrir un voyage en Afrique ou aux Antilles, tu dois économiser pendant un an, mettre de côté 50 euros tous les mois. Lui, il fait ça comme ça en un clin d'œil. Vous ne vous rendez pas compte. Mais les enfants observent énormément. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Les enfants observent beaucoup. Tu passes ta journée en train de regarder la télévision, en train de zapper Star Academy. L'enfant est en train de regarder avec toi. Tu es en train de lui donner une leçon. Tu ne peux pas lui dire demain, va faire tes devoirs. Il dit non, parce que les mentalités changent, non pas par l'argumentation, mais par l'observation. Les gens imitent ce qu'ils voient. Et lorsque mon fils, voyez, hier encore, mon fils, il se met sur le fauteuil, il saute tout seul. Alors, depuis qu'il a le DVD de ICC Masquoi, il a deux modèles, moi et puis Jerry. Jerry, où es-tu? Réponds-toi. Il est là. On y va. Il y a quelqu'un qui m'a croyé. Et puis il prend le micro tout seul. Mon fils, il a 3 ans. À 3 ans, il me demande de lui mettre des DVD en anglais. Où il voit le pasteur Mathieu prêcher. Il ne comprend rien au message. Je me dis, mais mes petits, qu'est-ce que tu regardes? Tu ne comprends rien au message. Et il est là pendant une heure, il fixe juste l'écran. Et puis quand il a fini, quand la télé est éteinte, il prend le micro maintenant lui tout seul. Je dis, ya. Mais je dis, mes petits, mais. Bon, je sais plus. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Les gens observent. Tes enfants observent ce que tu fais, pas ce que tu dis. Que quelqu'un dise amen. Quand tu traverses le Jourdain, tu veux le meilleur de Dieu. Tu ne veux pas juste ce que Dieu permet. Parce que Dieu peut te permettre d'épouser un chrétien, mais qui n'est pas du tout guéri. Laissez-moi vous dire une chose, mes soeurs, mes frères. Seigneur Jésus, pardon. On a un peu d'expérience dans le domaine. Je vois des couples qui se marient, chrétiens. Au bout d'un an, on est en instance de divorce. Pourquoi? Parce que tu as négligé plusieurs principes. Tu n'as pas écouté la voix de la sagesse. Tu n'as pas cherché à traverser le Jourdain. Quand tu prends des décisions dans le désert, ce n'est pas toujours des décisions sages. Quand tu as un niveau de maturité suffisant, tu as traversé le Jourdain et que tu dis, Seigneur, je ne veux pas Ismaël, je veux Isaac. Je veux ton plan parfait. Si ça doit me coûter de perdre mon argent, de perdre un salaire, Seigneur, je veux ta volonté. Mais je sais une chose, celui qui marche, celui qui pleure en transportant la semence reviendra avec chant d'allégresse lorsqu'il transportera les germes. Je sais qu'il y a un temps pour semer, qu'il y a un temps pour récolter. Et lorsque j'ai été semé, t'inquiète pas, marche-moi dessus, mais je te garantis que je suis comme Terminator, je reviendrai à la vie et tu diras, tu es revenu, mais quand je serai revenu, j'aurai plus de fruits. Donc, dis à ton voisin, traverse le Jourdain. Traverse le Jourdain. Je veux le parfait de Dieu. Ce n'est pas juste un frère, parce que je veux le parfait. Ça, c'était le premier, c'est la consécration. Ils ont dû d'abord traverser le Jourdain. Le deuxième C dans le processus, c'était la circoncision. Que quelqu'un dise la circoncision. Imaginez le contexte. La circoncision, c'est lorsqu'on enlève le prépuce. Les femmes ne savent pas trop ce que c'est, mais je vous assure que les hommes, ils savent ce que c'est. Enfin, dans certains pays. La circoncision, c'est lorsqu'on enlève le prépuce. La circoncision, c'est à l'époque, dans l'Ancien Testament, mais ces choses n'étaient qu'une ombre des choses à venir. Il fallait circoncire la chair. C'était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, Israël. Et au point que c'est devenu une telle coutume chez les Israélites que toutes les personnes qui n'avaient pas ce signe extérieur de l'alliance avec Dieu étaient appelées des incirconcis. C'était comme une injure. Quand on disait incirconcis, ça veut dire que tu étais vraiment quelqu'un de moins que rien. Que quelqu'un dit circoncision. Mais Paul nous explique dans le Nouveau Testament que la véritable circoncision n'est pas celle qui consiste à circoncire la chair. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu a dit à Abraham de se circoncire lui-même et de se circoncire tous ses enfants. Mais quand Abraham s'est circoncis, Abraham était déjà adulte. Imaginez-vous quelqu'un qui est déjà adulte et qui doit enlever le prépuce. Gars, pour un bébé, il faut au moins 24 heures, même plus pour un bébé. Il faut plus pour guérir. Mais pour un adulte, et la circoncision ne peut pas être faite par Dieu, c'est toi qui dois la faire. Sans anesthésie, merci. Pas de péridurale, il n'y a rien. Coupe, prends la pierre, le couteau de pierre. Jésus, hein? Péridurale, c'est pour les femmes. Que Dieu soit béni. C'était juste pour voir si vous suiviez. Ça montre que vous dormez et qu'il y a quelques personnes seulement qui suivent. Béni soit l'Éternel pour les personnes qui sont attentives. Alléluia. Je suis un homme, merci Seigneur. Je n'ai pas fait de médecine. Alors imaginez-vous le contexte. Israël traverse le Jourdain. Dieu vient de séparer la mer, le Jourdain en deux. Quand tu vois Dieu faire de tels exploits, comment ne pas être enthousiaste et dire hard? Là c'est chaud. Si le Dieu, tout à l'heure, il y a 40 ans, il a divisé la mer rouge en deux. Là aujourd'hui, il vient de diviser le Jourdain en deux. Dieu est puissant. Et quand tu vois ça, tu as envie de manger. Je suis sûr que quand ils sont arrivés de l'autre côté du Jourdain, ils ont dû commencer à dire, allez, Josué, nous sommes prêts. Parce que la Bible dit que toutes les nations environnantes étaient déjà terrorisées. À l'idée même de les voir arriver, les gens avaient peur. Donc tout le peuple d'Israël était là. Oh, allons-y, attaquons ces nuits, terrassons-les tout de suite. Qu'ils soient exterminés en une seule fois. Allons vers ces forteresses. Et le problème, c'est qu'ils voulaient aller avec leurs armes. Alors tu vas avec ton épée devant Jéricho. Jéricho, c'était une ville barricadée. Tu mets ton épée va se casser. Mais regardez un peu, pendant que tout le peuple est dans la joie, dans l'enthousiasme, alléluia, on va faire des exploits avec Dieu. C'est fini. Dieu a dit, on prend notre héritage en possession. Je prends, au nom de Jésus, j'étais, j'écrase, je détruis. Et moi j'entends, je les entends chanter version moderne, je les entends tous chanter là. Alléluia, Dieu va faire des prodiges. Jésus fait des miracles, alléluia. Il fait des miracles. Et puis on a qui retentissent, qui ne saute pas n'est pas chrétien, tiens, qui ne saute pas n'est pas chrétien. Hé, hé. Ils étaient excités. Dieu nous a livré le pays, allons-y, charge. Et pendant ce temps, Josué a reçu une parole du Seigneur. Josué a entendu l'Éternel lui dire, prends le couteau, prends, fais-toi des couteaux de pierre. C'était mieux que l'acier. Prends-toi des couteaux de pierre et tu vas me circoncire, tu vas me couper le prépuce de tous ces hommes. Alors ils sont là, Josué vient avec nous là, alors. Josué dit, attendez d'abord. Fais les couteaux de pierre de son côté. Il est en train de rendre ça tranchant. C'est pas des bébés, c'était des adultes. Tranchant. Josué, tu fais quoi? Viens, allons montant. Je dis, attendez. Je prépare les couteaux. Puis après, Josué arrive et dit, bon, allons, on y va. C'est bon, là, on est prêt. Allons-y. Josué dit, mais attendez, avant d'y aller, Dieu m'a dit que je dois d'abord circoncire tout le peuple. Alors, tous les hommes, à la file indienne, ouvrez vos pantalons. Ouvrez vos pantalons, enfin, ouvrez vos braguettes. Laissez vos slips. Tous dehors. Un à un. Prenez les couteaux. Coupez. Ah! Pourquoi Dieu fait ça? Dieu dit, quand tu as traversé le Jourdain, tu as pris une superbe décision. Tu as pris un engagement. Tu remarques toi que quand tu as traversé le Jourdain, tu es zélé. Tu dis, alléluia, à partir d'aujourd'hui, j'entre dans ma destinée. Seigneur, je ne te décevrai plus. Seigneur, je vais obéir. Seigneur, je vais marcher dans l'intégrité, la sainteté, la pureté. Seigneur, je suis prêt, je vais foncer, alléluia. Seigneur, je ne te décevrai pas, tu vas voir. Dieu te regarde depuis le trône, il dit à Josué, Josué prépare les couteaux. En fait, Dieu n'est pas impressionné par tout. Il n'est pas impressionné par toutes tes déclarations. Il dit, Josué, pendant qu'il parle là, je l'entends, prépare les couteaux. Jésus arrive, mais pourquoi on doit se... C'était le signe de la... Pourquoi veux-tu qu'on soit circoncis? Car on est déjà âgé là. Parce que regardez, la Bible dit, hein, regardez, au verset 5, la Bible dit, au chapitre 5, verset 8, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Parce qu'il fallait attendre de guérir. Tu sais pourquoi Dieu te dit ça? Pourquoi Dieu doit te circoncire? Il dit, tu es plein de bonne volonté. Tu es zélé. Et tu crois que ta volonté seule te permettra de reprendre Jéricho. Tu crois que ta volonté te permettra de renverser ces forteresses. Tu n'as rien compris. Prends les couteaux, Josué. Amène-le ici. Parce que Paul dit dans Romains chapitre 7, j'ai la volonté, je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que j'essaie de faire, je n'arrive pas à le faire. Malheur à moi, quelle misère. As-tu remarqué que quand tu traverses le Jourdain, tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais prier 3 fois par jour. Je vais prier à partir de minuit jusqu'à 6 heures. Je vais prier, je vais faire ci. Au début, tu commences. Puis après, tu lâches. Dieu te dit, mon fils, tu penses que c'est juste ta bonne volonté. Tu as oublié que ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et tu comptes tellement sur toi. Tu as pris la décision, mais tu t'appuies encore un peu trop sur toi. Tu te reposes sur ton statut. Alors ma vie, j'ai déjà un plan de carrière. 25 ans marié. Je suis quand même pas mal, hein. Beau diplôme, pas mal d'argent, belle femme, beau gosse. Hein? Donc, bon. 25 ans, je pense que c'est raisonnable, Saint-Esprit. C'est pas mal. 2 ans plus tard, après, alors quand je finis mes études, je passe 1 an en Angleterre. Je travaille pendant 2 ans. La 4e année, je suis aux États-Unis pour 6 mois. Mon plan est bien réglé. Seigneur, mets ton saut dessus, mets un tampon. C'est pas mal, Saint-Esprit, c'est ça. Ça me plaît, ça a toujours été mon ambition. Tu vas être quelqu'un d'important, d'être une femme d'impact, d'être un homme d'impact, une personne qui se distingue. Moi, je vais leur montrer là. Je vais faire de la politique, tiens, la politique. Alors, je compte entrer dans la politique vers 33 ans. Je mourrai peut-être à 80 ans. Donc, j'ai 47 ans à faire dans la politique. Je vais commencer d'abord comme secrétaire général. Dieu t'entend. Parce qu'en fait, j'ai pas précisé, j'ai fait Sciences Po. J'ai fait Sciences Po. Je compte aussi aller à l'ENA. Dieu te regarde. Dis José. Josué, prépare les couteaux. pas le couteau. Ton plan de carrière est trop parfait. Où est la place de Dieu dans tout ça? Où est-ce que tu me mets? Ce sont des forteresses que tu veux renverser avec ton intelligence. D'accord, tu as prêté allégeance. Mais as-tu remarqué que depuis que tu as prêté allégeance, tu t'interroges des fois? Seigneur, à partir d'aujourd'hui, les pensées d'impureté là, c'est fini. Au nom de Jésus, esprit d'impureté sexuelle, adultère, fornication, masturbation, bestialité, inceste, je te détruis. Quand tu as fini, tu dis, ouais, là maintenant j'ai décidé, c'est fini. Et puis un jour, tu vois que tu es encore rempli de mauvaises pensées. Là, tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Après 10 ans de conversion, ça peut encore arriver? Seigneur, et ça te fait mal. Parce que tu aimerais montrer au Seigneur que tu es capable de tenir la promesse que tu lui avais faite. Dieu dit, mais c'est moi qui produis en toi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Tu t'appuies tellement sur toi et sur tes plans, sur tes calculs sages, parce que tu as fait un doctorat en mathématiques et en physique. Je dois te montrer que tu n'es pas encore prêt. Josué, prépare le couteau. J'ai promis au Seigneur de ne plus recommencer. Tu te rends compte que tu as recommencé les mêmes choses que tu avais dit de ne pas recommencer. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, plus jamais j'ai été touché par la parole. Ma langue, je ne vais plus utiliser ma langue pour calomnier, pour faire des commérages. Et puis un jour, dans ta carnalité, tu te mets à balancer n'importe quoi à partir de ta bouche. Et tu fais, oh, je ne comprends pas comment des choses pareilles ont pu sortir de ma bouche. Je suis scandalisé. J'ai dit des paroles, des choses qui me dépassent. Dieu te montre simplement que ta chair est encore active. Elle n'a pas encore été crucifié. Pensant, je réalise que j'ai un vrai problème. En fait, le problème que tu as. Alors, parce que si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas que le problème vient de ta chair, tu vas ressembler au chrétien pentecôtiste zélé qui va aller jeûner pendant 21 jours. 21 jours de jeûne et prière. Parce qu'aujourd'hui, là, je dois combattre le diable. Il y a cet esprit de manque de pardon ou de colère ou d'adultère qui doit sortir de moi. Tu jeûnes 21 jours. Dieu te dit, attends, le problème là, ce n'est plus le diable. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'était ta chair. Mais je me suis rendu compte que des fois, c'est plus facile de prier que de prendre des décisions. Parce que lorsque le problème, c'est la chair, vois-tu, la chair, ce n'est pas Dieu qui la crucifie. C'est toi qui dois prendre le couteau pour couper. Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est toi qui le fais. Il t'accorde la grâce d'endurer et de guérir. Mais c'est toi qui prends la décision. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que ton problème, ce n'est pas juste prier et jeûner. C'est important de prier et jeûner, que quelqu'un dise amen. Mais là, on ne parle pas de ça. Il y a des décisions que tu dois prendre qui vont te faire mal. Parce que vois-tu, lorsque tu passes le couteau de la circoncision, tu n'as pas envie de louer. Tu n'as pas envie de chanter. D'ailleurs, tu n'es même pas en état de louer et de danser. Vrai ou faux? Parce que tu es blessé. Il y a des choses que tu dois laisser partir de ta vie. Il y a des gens qui doivent sortir de ta vie. Tu le sais, Dieu le sait, Satan le sait. Mais tu pries encore pour dire, Seigneur, si c'est ta volonté que cette personne sorte de ma vie, tu sais que c'est ma volonté. Tu l'as déjà entendu, tu le sais, il n'y a rien à dire. Tu continues de prier. Seigneur, si c'est ta volonté, fais qu'à partir d'aujourd'hui, on en arrête les rapports. Tu attends qu'un bouton vienne te téléguider, dès que tu vas aller vers la sœur, que le bouton te ramène en arrière en te disant, non, ainsi par l'Éternel, mon fils. Non, c'est ce que tu attends. Que quelqu'un fasse. Il y a des gens que tu dois laisser sortir de ta vie. Tu sais qu'ils n'ont rien à faire avec ton présent, ni avec ton futur. Mais tu préfères prier pour connaître la volonté de Dieu. Et quand tu as ce genre d'attitude, Dieu dit à Josué, amène les couteaux. Il y a des comportements. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à pardonner, qui transporte encore le manque de pardon. Tu sais que tu dois pardonner. Et tu pries tous les jours. Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner. En fait, Dieu te dit, la raison pour laquelle tu n'as pas pardonné encore, c'est parce que tu n'as pas pris la ferme résolution, décision de pardonner. Et c'est tellement plus facile de dire, je continue encore de prier. Ça fait 10 ans que je transporte ça, mais je continue encore de prier. Laissez-moi vous dire une chose. Le manque de pardon est le seul péché. Je dis bien le seul péché qui va déterrer ton passé que Dieu avait enterré. Ta vie passée que Dieu a mis dans la tombe. Par le manque de pardon, tu vas chercher toute ta vie passée qui était dans la tombe. Tu la ressors. Tu la déterres. Et quand tu déterres ta vie passée, tu déterres tous les démons et toutes les malédictions qui étaient attachées à cette vie passée et tu les rends de nouveau opérationnels et agissants dans ta vie. Dis à ton voisin, pardonne. Et là, ce n'est pas une histoire de prier. C'est juste une question de dire, Seigneur, je vais prendre le couteau. Je vais appliquer. Ça va faire mal. Et quand tout le monde va danser, je n'aurai pas envie de danser. Tout le monde va chanter, je n'aurai pas envie de chanter. Mais laisse-moi te dire une chose. La circoncision, c'était un acte d'adoration ultime. Parce que j'offre à l'Éternel ce qui ne lui sert à rien du tout. Lorsque Dieu voit, tu t'appuies trop sur ton diplôme. J'ai mon statut. J'ai mes finances. Tout ce qui est hautain chez toi. Dieu sait. Et je parle aussi de moi, rassurez-vous. Dieu sait qu'il faut que le couteau passe. Tant que le couteau n'est pas passé, tu es trop rempli de toi. Tu n'iras pas plus loin. Il faut d'abord que Dieu passe le couteau de la circoncision. C'est ce que Abraham a fait. C'était le signe de l'alliance. Je finis en vous disant ceci, en vous emmenant dans Josué chapitre 5 au verset 9. Josué 5 au verset 9. L'Éternel dit, alors écoutez-moi bien, suivez. C'est lorsque le peuple a pris la décision de quitter le désert. Parce que nous avons tous compris que le désert n'était pas la volonté de Dieu. Je peux être enfant de Dieu, accepter Jésus-Christ, mais n'être pas agréable à Dieu. Parce qu'au désert, on n'est pas agréable à Dieu. On est agréable à Dieu lorsqu'on est là où Dieu veut que l'on soit. C'est à Canaan. Là où je dois prendre les territoires. Là où je dois renverser les forteresses, changer le cours de ma vie et changer le cours de toute ma famille, changer, briser les joues qui pesaient sur ma famille et changer l'histoire de ma destinée et de toute ma postérité. Si quelqu'un ne le fait pas, qui le fera? Si je ne le fais pas, qui le fera à ma place? C'est lorsque le peuple a pris la décision de traverser le Jourdain. Et ensuite, lorsqu'ils ont pris la décision d'être circoncis dans leur chair. Et vous remarquerez que, en parenthèse, je précise que le fait d'accepter la circoncision pour Israël, c'était risqué. Parce que les nations autour, on savait qu'ils venaient leur faire la guerre. Donc, ils auraient très bien pu se dire, mais si on se fait circoncire, qu'est-ce qui empêche les Cananéens de nous tomber dessus et de nous terrasser? Puisque pendant tout le temps de notre guérison, on ne peut pas bouger. Ça veut dire qu'il fallait avoir de la foi en Dieu pour accepter et comprendre que même si j'ai l'air vulnérable, l'Éternel me protège. J'accepte de passer par le processus douloureux de me séparer de certaines choses, mauvaises habitudes ou certaines fréquentations, juste parce que je vais être agréable à Dieu. Et même si j'ai l'air vulnérable pendant cette période, j'ai l'air ridicule, Dieu me gardera. C'était un signe de foi. Et c'est lorsqu'ils ont fait ça que Dieu leur donne une parole. Il dit à Josué, aujourd'hui, que quelqu'un dise aujourd'hui, ah, que quelqu'un dise aujourd'hui, aujourd'hui je vous ai débarrassé de la honte que vous aviez ramené d'Égypte. Aujourd'hui, lorsque tu prends cette décision, un, de traverser le Jourdain, deux, de passer par la circoncision, c'est-à-dire de me faire confiance à moi seul et de ne plus t'appuyer sur toi-même, sur ta propre sagesse. Lorsque tu fais le choix de te débarrasser de ces choses qui m'empêchent de te parler, d'agir dans ta vie, c'est là que je te dis une chose. Je te débarrasse de la honte de tout ce que tu as ramené. La honte de tes échecs passés. La honte de ce qui t'est arrivé par le passé disparaît de toi à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que tu as accepté de couper ce qui pour toi était une occasion de chute. Parce que tu as accepté de le couper, Dieu te dit, ton nom ne sera plus jamais associé à la honte. Ton nom sera associé à la gloire. Je ne laisserai plus les gens t'appeler n'importe comment. Hier, ils te critiquaient, ils te calomniaient. Parce que quand tu as passé 40 ans à tourner dans le désert, quand tu as passé 40 années à tourner dans le désert et que tu as les gens de l'autre côté qui disent ça fait 40 ans qu'ils menacent de venir, ça fait 40 ans qu'ils promettent, ils disent ouais, on va traverser un jour et jamais ils ne traversent. Le jour même où tu traverses, il y a quelqu'un qui dit hey, ça fait 40 ans qu'on t'attend, maintenant tu crois, qu'est-ce que. Dieu dit ils se moquaient de toi, demain ils seront confondus. Je te distinguerai. Il a juré par lui-même, il a juré à Abraham, il a dit je te le jure. Ne pouvons pas jurer par quelqu'un de plus grand que moi. Je te jure, Abraham, que je te bénirai. À cause de ce que tu as fait, cet acte, tu as fait ce choix d'être circoncis, de me faire confiance. Tu as pris un risque. Tu as dit, d'accord, je me préserverai jusqu'à mon mariage. j'oserai faire ce que tu dis de faire. Peut-être qu'en faisant ça, il y a des amis qui partiront. Peut-être qu'en faisant ça, je perdrai une partie de mon salaire. Je ne sais pas ce que c'est. Mais Seigneur, j'accepte ton plan parfait. Je veux être là où tu veux que je sois, sur la terre promise. Je ne veux plus d'une volonté juste permissive. Je veux ta volonté parfaite. Et à cause de ce choix que tu as fait, l'Éternel a dit à Abraham, parce que tu n'as pas eu honte de te circoncire, de sacrifier ce que tu avais de plus cher, je le jure par moi-même, je te bénirai. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Je te rendrai père de plusieurs multitudes. Sais-tu que Dieu peut faire de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de ce monde? Tu te sous-estimes? À travers ta vie, Dieu est capable de bénir plusieurs générations, des millions de personnes. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je combattrai ceux qui te combattront. Et à partir d'aujourd'hui, à cause de ce choix que tu fais, la honte disparaît de ta vie. Tu relèveras la tête avec espoir. Tu regarderas devant avec espoir. Tu regarderas vers le haut avec gratitude. Je te dis que je change ton histoire. Tu ne seras jamais dans la honte, dans la confusion. Pas parce que c'est l'opinion d'un pasteur, mais parce que le Seigneur a dit, je le jure par moi-même. Comprenez bien une chose, Dieu n'était pas obligé de jurer parce que sa parole est vérité. Lorsqu'il dit une chose, elle s'accomplit nécessairement. Mais juste pour augmenter le niveau de ta foi, et juste pour te faire comprendre à quel point il est sérieux dans cet engagement. Dieu qui a dit lui-même par Jésus, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre. Dieu lui-même qui dit de ne pas jurer, là il a fait une exception. Il a dit, juste pour te prouver, je ne suis pas obligé de le faire. Parce que quand je dis quelque chose, elle s'accomplit. Mais je te dis que je le jure. Et à cause de ce qu'il a dit, je le jure. La Bible dit qu'Abraham a cru. Parce que si Dieu jure par lui-même, alors je ne peux pas être dans la confusion. Il change mon histoire. Plus de honte. Je n'ai pas à avoir honte de mon passé. Je relève la tête. Je regarde vers le ciel avec gratitude, vers l'avant avec espoir, vers l'arrière avec reconnaissance. Inclinons la tête et prions. Es-tu prêt à traverser le Jourdain? Le Jourdain, ce n'est pas pour les personnes qui veulent encore rester dans la nostalgie. Le Jourdain, c'est pour les personnes qui ont dit, Seigneur, je veux pas un plan B, mais ton plan parfait. Je reconnais que ça coûte. Il y a des gens qui vont devoir quitter ma vie. Il y a des habitudes qui vont devoir quitter ma vie. Il y a des passions charnelles qui vont devoir quitter ma vie. Il y a peut-être des tendances dans la colère qui vont devoir quitter ma vie. Mais Seigneur, je prends le couteau de la circoncision. Et je reconnais que ce n'est pas un démon qui peut m'empêcher en réalité de prendre ce couteau. J'ai pendant longtemps prié pour te dire, Seigneur, intervient. Mais je savais très bien que tu n'allais pas intervenir. Parce que tu m'as dit de prendre moi-même le couteau. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il n'a pas dit qu'il la coupera. Il a dit, toi, coupe-la. Il y a des choses que tu dois couper. Circoncision. Mais si tu le fais, je te garantis que ta vie ne connaîtra jamais la honte. La gloire sera ton partage. Et qu'importe là où tu es aujourd'hui, si j'ai juré par moi-même de te bénir, et si tu es la postérité d'Abraham, alors la bénédiction que j'ai prononcée sur Abraham coule jusqu'à toi. Et je te garantis que cette parole s'accomplira. Demain, les gens te verront et diront, mais comment as-tu fait? Qu'est-ce qui t'a distingué aux yeux des autres nations? Et là, tu leur diras, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Voilà pourquoi aujourd'hui, je prends la décision de traverser le Jourdain, de quitter cet état de bébé en train de pleurnicher tout le temps. Mais j'accepte, Seigneur, de devenir la personne que tu m'appelles à être et d'entrer dans ton plan parfait. Je ne te demande plus seulement, Seigneur, permets. Non. Je ne veux pas quelque chose que tu permets. Je veux quelque chose que tu approuves et que tu as créé avec tout ton cœur. Je veux être ce que tu veux que je sois et je veux faire ce que tu m'as appelé à faire. Il y aura des douleurs qui ne me donneront pas envie de danser, qui ne me donneront pas envie de chanter, qui me rendront vulnérable en apparence, Seigneur. Mais je te demande la grâce de guérir, Seigneur, de guérir de cette colère, de guérir de cette amertume, de guérir de ce manque de pardon, de guérir de cette haine, de guérir de cette peur, de guérir de cette inquiétude chronique, de guérir de ce doute et de cette incrédulité. Accorde-moi la grâce alors que je traverse le Jourdain, Seigneur. Je dis ce matin que je veux prêter allégeance à l'agneau de Dieu. Tu as dit dans ta parole, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et Seigneur, ce n'est pas à cause de ma force. Je reconnais que je suis sans force, Seigneur. Je reconnais que je n'ai pas de force par moi-même, mais que ta force maintenant agisse en moi. Hier, je m'appuyais sur ma propre sagesse. Hier, je comptais sur mes talents. Aujourd'hui, je ne compte que sur toi, Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux quand tu le veux, Seigneur. Je mets de côté mes plans. J'ai planifié, c'est vrai. Mais je dis, Seigneur, après avoir fait tous mes plans, après avoir établi mes objectifs, après avoir, Seigneur, montrer ma capacité à utiliser mon intelligence pour faire mes business plans pour mon entreprise. Après avoir fait toutes ces choses, je viens devant toi et je dis, Père, toutefois, que ce soit ta volonté et pas la mienne. Parce qu'en réalité, Seigneur, tu as dit dans ta parole, recommande tes voies à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Oui, je reconnais que tu m'as donné une vision et je crois en cette vision. J'avais fait mes calculs, j'avais dit la vision va s'accomplir probablement dans 2 ans, probablement dans 3 ans, d'après mes calculs mathématiques basés sur l'intelligence et sur la sagesse humaine. Mais je me rends compte que, Seigneur, tous ces plans n'ont pas abouti parce qu'il fallait que tu me prennes de côté pour faire passer le couteau de la circonstance. Concision. Alors hier je disais, je suis sûr que tu le feras à telle date, avant la fin de l'année tu auras manifesté ta gloire. Maintenant je dis simplement, Père, c'est comme tu veux, comme tu veux. Je sais que simplement tu n'es jamais en retard et tu n'es jamais en avance. Seigneur, je n'ai plus de détails à te donner pour t'impressionner, pour te menacer. Je dis simplement, tel que je suis, me voici, le cœur brisé et repentant. Parce que tu as dit dans ta parole, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur, de ceux qui ont le cœur brisé, et il est proche de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il ne s'agit pas d'un état dépressif, il s'agit simplement d'un esprit humble et repentant qui reconnaît que ce n'est pas par mes calculs, par mon intelligence, c'est uniquement par ton esprit, Seigneur. Alors je dis, je mets devant toi tout ce que j'avais prévu et je dis, Père, toutefois que ta volonté, pas celle que tu permets, Seigneur, mais celle que tu agrées le plus, celle qui est parfaite à tes yeux, Seigneur. Je ne veux pas gagner le monde si c'est pour y perdre mon âme. Je ne veux pas gagner le monde si c'est pour ne pas être dans le cœur même, au centre parfait même de ta volonté. Oui, ça fera mal. Il y aura des vallées de l'ombre de la mort, c'est vrai, Seigneur, mais la prière de mon cœur, c'est simplement faire ce que tu dois faire. Il y a des géants qui doivent tomber, des forteresses qui doivent être renversées, des malédictions qui doivent cesser, une vie de témoignage qui doit commencer. Je sais qu'il y a un prix, Seigneur. Alors comme Esaïe, alors que tu cherches un homme qui est vite, qui ne cherche pas des raccourcis, parce que tu as dit, lorsque je viendrai, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Seigneur, je ne veux pas être... Je ne veux pas faire partie de cette génération, Seigneur, de bébés spirituels qui n'est impressionné, qui n'est intéressé que par les messages sur la prospérité, sur la bénédiction, des messages qui disent tout le temps que tu vas bénir, même lorsqu'on est dans la désobéissance. Je ne veux pas faire partie de cette génération qui aime écouter les fables et les généalogies et les doctrines de démons qui promettent des bons et merveilles à ceux qui vivent dans la désobéissance, dans la compromission. J'accepte la parole de vérité et même si elle va me faire mal, qu'elle fasse mal. Si tu dois passer le couteau, passe le couteau. Ça fera mal, mais guéris-moi. Accorde-moi la grâce d'être guéri. Parce que ces choses, Seigneur, que je transportais jusqu'à présent, Seigneur, cette colère, cette amertume, cette haine n'appartiennent certainement pas à ma destinée. Parce que tu m'enseignes ce matin que je ne peux pas aller à la conquête de Jéricho, renverser les forteresses avec mes propres forces et mes propres atouts. Oui, tu m'as donné un potentiel extrêmement fort, puissant, illimité. C'est vrai, je le reconnais. Toutes ces choses sont bonnes, mais je te dis ce matin, toutefois, que ce soit ta volonté, ton timing, Seigneur. Je ne mettrai plus de deadline, je ne te donnerai plus d'ultimatum. Je dirai simplement, tu connais toutes choses. Dieu,
Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé
d'entrer dans ta volonté parfaite. Je baisse la tête parce que je m'attends à la douleur. Mais c'est un chant, une lamentation, une supplication qui monte vers toi. Oui, j'ai décidé.
Oui, j'ai décidé.
Par ta grâce, j'y arriverai, Seigneur. Oh, et quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, mes ennemis penseront que j'ai été enterré. Mais je te dis merci de ce que j'ai uniquement été planté. Non, je n'ai pas été enterré. Ce n'est pas fini pour moi. J'ai décidé, je prête allégeance ce soir. Si quelqu'un a cette prière dans le cœur, qu'il se tienne debout. Si quelqu'un veut traverser le Jourdain et dire au Seigneur, fais cette œuvre, qu'il manifeste sa foi, son engagement en se tenant sur ces deux. J'ai décidé. Je sais que par ta grâce, tu veux le meilleur pour moi. Mais je reconnais que sans la circoncision, je ne peux pas le faire. Le monde derrière moi, Seigneur. Le monde derrière moi est la croix. Oh, la croix, elle est un instrument de mort. Mais la croix n'est pas la mort physique, c'est la mort à soi. C'est la mort au vieil homme, c'est la mort de la chair, Seigneur. Il faut que tu le fasses. Et je réponds oui à ton appel ce matin, Seigneur. Je ne peux pas rester indifférent, Seigneur. Il y a trop de forteresses à abattre. Le monde derrière moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi.
Le monde derrière moi, la croix devant moi.
Le monde derrière, le désert derrière moi, la croix. Je dois passer par la circoncision. Il faut que l'œuvre de la croix se fasse.
Le monde derrière moi, le monde derrière moi, la croix devant.
Voici, prends ma vie, Seigneur. Comme un sacrifice vivant, je me livre entre tes mains. J'ai dit, consume ce que tu dois consumer. Enlève ce que tu dois enlever, Seigneur.
Oui, pour toujours. Pour toujours.
J'élève la voix maintenant, parle à l'Éternel, parle à ton Dieu. C'est une question personnelle, c'est une histoire entre Dieu.
Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur l'église ICC Impact Christian Center, rendez-vous sur notre site internet www.icc-paris.org. Pour commander d'autres produits enregistrés à ICC, veuillez vous rendre sur le site www.metanoia-vie.com ou téléphonez-nous au 33 1 46 70 52 31. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.